Les cours du Collège de France, Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Grenet.
Eh bien, bonne année à tous et merci d'être venus si nombreux à braver le réchauffement climatique pour venir écouter ce premier cours. Alors, comme j'ai annoncé sur le programme, on va continuer pendant l'essentiel de cette année, en fait, à passer en revue les temples non bouddhiques d'Asie centrale, c'est-à-dire en fait Bactriane et Sogdiane. S'il reste, ça dépendra un peu du rythme, probablement à la fin, il y aura une ou deux séances consacrées à des publications récentes sur la mise en valeur des oasis. Ce choix des temples non bouddhiques comme thème du cours se justifie à mon avis, enfin, pourrait paraître un peu étonnant, étalé sur deux années, parce que finalement on n'en connaît pas beaucoup. Hein. Les exemplaires fouillés de temples non bouddhiques en Asie centrale, entre la période achéménide et la conquête arabe, c'est un peu plus d'une vingtaine. Bien. Mais en fait, chacun individuellement pose un problème. Il n'y a pas du tout de duplication. Chacun a une histoire spéciale. Alors évidemment, ils sont connus à des degrés très très divers par l'archéologie, certains très sommairement, certains beaucoup plus soigneusement. Ils ont tous eu une histoire assez chaotique qui fait que on n'en a aucun, on n'en a trouvé aucun en fait qui est contenu, est encore contenu ses installations intégralement et son mobilier d'origine, quoique dans certains cas on s'en approche. Ils sont tous différents, il y a beaucoup de différences sur la modalité des implantations, certains en ville, certains en position plus isolée, sur leur fonction sociale. On a des grands temples de fondation impériale, c'est d'ailleurs ceux par lesquels on va commencer pour l'époque Kushane. C'est d'ailleurs ce type de temple qu'on avait vu l'année dernière avec les fondations séleucides en Bactriane, Aïranoum et Tartessanguin, qui étaient dans les deux cas et des fondations impériales. Donc on a encore des fondations impériales, mais on a aussi des fondations qui semblent davantage civiques, des fondations qui pourraient être confédérales, en liaison avec des grands réseaux d'irrigation, et puis certains cas pour lesquels on a du mal à répondre à la question de l'ancrage politique et social. Les publications sont abondantes, même très abondantes, pour une partie d'entre eux, pas tous, mais en fait, pour presque chacun, il faut revenir périodiquement. Parce que les données prises en compte s'enrichissent constamment, que ce soit du point de vue archéologique, iconographique ou textuel, et notamment les problèmes de destination cultuelle, de divinité titulaire des temples, en fait, se reposent de manière constante. Donc il faut toujours essayer d'envisager le dernier état de la question. Donc, cette année, pour commencer, on va continuer dans la thématique des fondations impériales qu'on avait abordées l'an dernier et bascule maintenant sur l'époque Kushane, donc ce qu'on appelle en fait ce qu'il est d'usage d'appeler les temples dynastiques Kushans. L'Empire Kushan, bon, je ne vous le présente pas, le voilà, disons, extension en soi et zone qui était contrôlée soit temporairement, soit de manière assez indirecte. Hein, donc le noyau, ça s'est formé en Bactriane et assez rapidement ils franchissent l'Hindoukouche, tout ça. Donc voilà, c'est la période contemporaine du Haut Empire romain. C'est en gros premier et deuxième siècle de notre ère et début du troisième siècle. Le contrôle, il y a eu un contrôle sur une grande partie de l'Inde, mais on discute pour savoir dans quelle mesure ce contrôle était toujours très effectif. Vous voyez, c'est cette deuxième zone-là. Et puis également, un certain type de contrôle sur une partie des oasis du bassin du Tarim, en rivalité avec la Chine. Alors là aussi, la question n'est pas résolue de la modalité exacte de ce contrôle de l'Empire couchant. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit temple dynastique ? En fait, au moins trois d'entre eux, c'est-à-dire en Bactriane, très près l'un de l'autre, sur Kotal et Rabatak, et puis un autre en Inde, près de Mathura, Math, ont livré des statues de pierre d'ancêtres royaux couchants. Voilà, une galerie des ancêtres. On est sûr, par un document, l'inscription de dédicace de Rabatak, que nous allons analyser, que au moins à Rabatak, la galerie remontait trois générations avant le roi dédicant, qui était Kanishka. C'est-à-dire ça remontait jusqu'au fondateur de la dynastie, Kujula Kadphises. Alors, c'est évidemment à cause de la découverte de ces statues qu'on a parlé de temple dynastique. Mais alors, la question de savoir quel était le statut de ces ancêtres royaux, pas tous ancêtres d'ailleurs, parce que le roi vivant met sa statue avec ses ancêtres. Quel était leur statut dans le temple ? Est-ce qu'il y avait, comme dans l'Empire romain, à proprement parler, un culte dynastique où le roi, le souverain défunt, était supposé avoir été mis au rang des dieux et était l'objet d'un culte. C'est une question qui fait débat. Pour ma part, je fais partie de ceux, mais qui ne sont peut-être pas la majorité, qui considèrent qu'il n'y avait pas véritablement de culte dynastique et que ces ancêtres royaux sont là en tant que dédicants. Il y a un gros problème de vocabulaire parce que contenaient les temples ? Alors, deux inscriptions, à Rabatak et à Surkotal, disent que les temples abritaient des bagas. Alors, bago en bactrien, enfin non, ça se prononçait varg, c'est en fait varg. Baga, c'est le vieux mot iranien baga. Donc dans certains, ces temples sont appelés Bagolango, Bagadana, ça vient de Bagadanaka, maison des dieux. Et dans un cas arabe, en Inde, on a le terme à Math, on a le terme Devakula qui a le même sens, maison des dieux. Problème, c'est que, alors, d'une part, on voit d'après le contexte à l'inscription de Surkotal que nous allons analyser, que ce mot désigne à la fois les dieux et leur image. On a transporté les bagas à un certain moment, on les évacuait du temple. Alors, bien entendu, ça veut dire qu'on a évacué les statues, mais on peut supposer qu'en même temps, on a évacué la présence divine que représentaient ces statues et donc l'objet du culte. Bien. Mais ce qui complique encore plus la chose, c'est que le mot baga fait aussi partie de la titulature des rois. Parce que baga, ça veut dire à la fois Dieu et Seigneur. Ça, c'est un énorme problème avec les langues anciennes et moyennes iraniennes. C'est que le vocabulaire ne permet pas toujours de savoir si on a affaire à une divinité ou à un roi. Parce que dans tous les cas, c'est baga le Seigneur. Donc le terme « maison des dieux » est attesté en fait quatre fois, à Rabatak, sur Kotal, à Irtam et donc à Mat en Inde. Alors, une fois ces préliminaires posés, on a des degrés très divers d'information archéologique et également d'information textuelle. Alors, quand je dis information textuelle, je veux dire information épigraphique, parce que on n'a pas de texte qui nous parle de ces temples, enfin de texte extérieur à ces temples. Les textes qu'on met en rapport avec ces temples, c'est les inscriptions qu'on y a trouvées. Il y a pas de, il y a quelques témoignages extérieurs pour des temples plus tardifs en Sogdiane, mais pour cela, on a uniquement le matériel épigraphique qu'ils ont livré. Commençons par Rabatak et sur Kotal. Voilà une carte qui représente donc c'est l'Afghanistan dans ses frontières actuelles. L'Empire couchant, donc l'Afghanistan était quasi tout entier occupé par l'Empire couchant, sauf les régions les plus au sud. Et puis donc, comme je l'ai dit, l'Empire couchant s'étend fortement vers l'est. Alors, vous voyez tout de suite que ces temples de Rabatak et de sur Kotal sont localisés dans la partie nord de l'actuel Afghanistan, mais disons plutôt au sud de cette partie nord, hein, le long des montagnes de l'Hindoukouche. Voilà Bactre, la grande capitale, Rabatak et sur Kotal, près l'un de l'autre. Et voilà donc un zoom qui nous montre qu'en fait, donc on est là pratiquement au pied des cols qui franchissent l'Hindoukouche, la grande chaîne est-ouest qui sépare l'Afghanistan actuel en deux. Et on a donc ici sur Kotal, et à une distance, je pense que c'est une soixantaine de kilomètres, on a ici Rabatak. Dans les deux cas, donc, c'est en situation de piémont devant une grande plaine. Alors, tous les deux, ce qui a pu paraître sur Kotal est connu depuis 1952, Rabatak n'a été connu qu'à partir de 1992, et la grande surprise, ça a été de découvrir que Rabatak était une espèce de second sur Kotal, à une distance faible, et fondé par le même souverain, c'est-à-dire le Kanishka, le quatrième des quatrième des empereurs couchants, 127-150 à peu près, le plus fameux d'entre eux, le plus puissant, on va dire contemporain pour l'Empire romain, c'est un contemporain d'Adrien et d'Antonin le Pieux. Les deux ont été fondés par Kanishka, on le sait par les inscriptions. Et pour ce qui est de Rabatak, on sait même que c'est au tout début du règne. Bien. Alors, donc, une action volontariste pour marquer son avènement. Je vous ai dit qu'ils étaient connus par les désignés par les inscriptions sous le nom de Varlan, maison des dieux, et ce nom existe encore. C'est la ville actuelle de Varlan, qui est à faible distance de l'un comme de l'autre. Alors, doit-elle son nom à l'un des deux ? Doit-elle son nom aux deux ? À ce moment-là, ça sera un pluriel. Est-ce qu'il n'y en avait pas un troisième qui était tout près de Varlan ? Bon, ça, on ne peut pas le dire. Ce qui est intéressant, c'est que ce secteur est connu plus tard par les documents bactriens du royaume de Rob, un royaume qui était un peu plus à l'ouest, voilà, dans cette vallée, en fait, publié par Sims Williams. Cette zone est connue sous le nom de Kadaghistan. Et Kadaghistan, ça veut dire le domaine de la famille. Sous-entendu, bien entendu, la famille royale. Donc, est-ce que ça ne serait pas un secteur qui aurait, disons, voilà, une espèce de domaine royal comme les Capétiens avaient leur royaume, mais au sein de ce royaume, autour de Paris et d'Orléans, ils avaient le domaine royal. Alors est-ce que ce serait pas ça, et ce serait la raison pour laquelle les souverains couchants auraient choisi ce secteur pour implanter ces deux immenses temples. Alors je vais commencer par Rabatac, qui a peut-être précédé sur Kotal. Alors Rabatac était complètement inconnu. On savait qu'il y avait un monticule, on pensait que c'était un fort. Et puis en 93, une immense inscription, une très longue inscription de fondation, la plus longue inscription kushane connue. Alors je dis tout de suite, inscription kushane, la langue c'est le bactrien, c'est-à-dire la langue iranienne locale de la Bactriane, et notée en alphabet grec. Complétée avec, c'est la seule langue iranienne qui ait jamais été notée en alphabet grec. Complétée avec ce signe-là, qu'heureusement on trouve sur les ordinateurs, c'est pratique quand on fait les transcriptions, pour noter le son ch, que le grec n'avait pas. Bien. Donc, en 93, cette inscription arrive à Kaboul, elle est publiée presque immédiatement par Sims Williams. Et ce qui a fait arriver cette inscription à Kaboul, c'est que on est au moment où les talibans arrivent au pouvoir en Afghanistan, le site commence à être pillé clandestinement, ou peut-être même pas clandestinement, pour servir de carrière de pierre. Parce qu'effectivement, vous voyez, ensuite des archéologues sont allés le visiter. Ici, c'est Gérard Foussman, qui était un professeur au Collège de France. Le site se présente comme une succession de terrasses, on voit bien là, depuis le nord, comme sur Kotal, succession de terrasses, qui montent vers une acropole, qui se trouvait le temple lui-même, le voilà, avec un mur d'enceinte. Ce mur d'enceinte en briques crues, mais garni de colonnes. Voilà une base de colonnes. Ouais. Des pilastres en pierre. Donc ça rappelle vraiment, c'est le même type d'architecture monumentale qu'à sur Kotal. Il n'y a jamais eu de fouilles. Vu comme on a connu l'existence de ce temple au moment de l'arrivée au pouvoir des talibans, et on n'a absolument pas pu envisager d'y faire des fouilles. Et pendant la période de 20 ans qui s'est étendue entre la chute des talibans et leur retour, il y a 2 ans, on n'a pas pu non plus envisager d'y faire des fouilles, d'une part parce que ça aurait demandé des moyens énormes, d'autre part parce que rapidement la zone est devenue peu sûre. Bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé parmi les éléments en pierre, mais il semble pas qu'il ait été photographié, il y a des pattes de lion. Alors, pattes de lion, ça peut faire penser à un trône royal. On en voit sur certaines images kushanes. Ça peut être aussi l'animal associé, le lion, et l'animal associé à la grande déesse Nana, dont il est justement question dans l'inscription de dédicace de Rabatac. Alors, l'inscription de dédicace à laquelle je vais venir bientôt donne le nom du temple. Ça n'est pas le cas dans l'inscription de Sur Kotal. Le temple n'est pas nommé. Ben oui, il est nommé. On dit c'est le temple qui a été nommé par Kanishka qui l'a fondé. Il y avait certainement un nom local, mais on ne l'a pas. Là, on a un nom local. Vage Ab, ça veut dire l'eau des dieux, ou la rivière des dieux. En fait, c'est le seul élément qu'on ait sur la nature du culte. À part la liste des divinités, on voit que le culte comprenait la nécessité d'un apport en eau pure. Le problème, c'est que sur le site même, on n'a pas repéré de source et qu'il n'y a aucun cours d'eau qui passe à proximité. Mais bon, ça, une exploration poussée du site réglerait peut-être la question. Alors, je dis aussi qu'il n'y a jamais eu de fouilles, mais il n'y a surtout jamais eu de relevé topographique. Et ça, c'est vraiment dommage parce que ça aurait pu être fait au drone pendant la période où on pouvait encore aller là-bas. Et puis, ça n'a pas été fait. Ou alors, apparemment, il y aurait eu un relevé, mais réalisé en fait par l'archéologue Roland Besenval, qui était à l'époque le directeur de la DAFA. Mais Roland Besenval est décédé brusquement et on n'a pas retrouvé le relevé dans ses archives. Et ça, c'est vraiment très, très dommage. Alors, j'en viens à l'inscription, qui a été donc publiée par Nicholas Sims-Williams pour les dernières lectures, parce qu'il a amélioré ses lectures. Elle a été publiée, je crois, en 92, peut-être en 98, et les dernières versions qu'il a données sont là, dans la revue The Silk Road, où il a très commodément rassemblé les inscriptions bactriennes d'époque Kushan, et le volume collectif dont j'ai été amené parfois à parler, Kushan Histories, qui est vraiment le volume de référence aujourd'hui sur la période Kushan, parce que toutes les sources y sont discutées, paru en 2015. Alors, l'inscription est très longue, je la dissocie sur deux vues, et je la lis. Le roi des rois, le grand salut, Kanishka le couchant, le droit, le juste, le seigneur par soi-même, le seigneur qui rend culte aux dieux. Alors voilà le problème que je signalais tout à l'heure. Sims-Williams comprend plutôt le dieu digne de culte. Eh oui, puisque Bago peut dire seigneur ou dieu. Bien. Qui a obtenu la royauté de Nana et de tous les dieux, qui a inauguré l'an 1 comme il plaisait aux dieux. Et il a abandonné la langue grecque et a institué l'arienne. Alors ça, c'est... Je reviendrai là-dessus, parce que Sims-Williams traduit autrement. Il a émis un édit en grec, puis il l'a mis en arien. Mais l'interprétation que je donne, c'était la première interprétation de Sims-Williams. Et à mon avis, c'est la bonne. Je reviendrai là-dessus, parce que c'est capital. En l'an 1, fut proclamé en Inde, dans les royaumes des... Alors, un mot qu'on peut comprendre, Kshatrapa, c'est-à-dire les titres iraniens qui vient de satrape, et ça désignait les petits royaumes indopartes, mais peut-être aussi, c'est peut-être Kshatriya, c'est-à-dire la caste guerrière. Alors, vous voyez, les royaumes des Kshatrapa, moi je crois que c'est plutôt, comme Fussman, je crois que c'est plutôt les Kshatrapa. Vous voyez ici, sur cette carte, Western Satraps. En fait, c'est les Kshatrapa. C'est-à-dire je vous avais parlé des royaumes l'année dernière, des royaumes indopartes fondés par des aristocraties venues de l'Iran parte et qui avaient établi des royaumes sur la côte. Ça pourrait en fait être ça. Donc, dans les royaumes des Kshatrapas, la prise de... Alors, il y a des noms de villes qu'on n'arrive pas à interpréter, mais il y en a qu'on comprend bien. Saketa, Kausambi, Pataliputra, aussi loin que Sri Champa. Tous les royaumes que lui-même et les autres généraux avaient atteints, il les a soumis à sa volonté, et il a soumis toute l'Inde à sa volonté. Bon, là, il y va un peu... Kanishka, il va un petit peu fort, mais... voilà, donc vous avez ici... Saketa, qui est pas loin de Mathura, donc c'est la plaine du Gange. Pataliputra, qui est actuellement Patna, c'est la vieille capitale de la dynastie Maurya, c'est près de Bénarès. Et il a atteint Sri Champa, c'est-à-dire vraiment la limite du Bengale. Il parle pas du Bengale, hein. C'est le Bihar, c'est la limite du Bengale. Il semble pas mentionner des conquêtes plus au sud. Alors, la suite. Ensuite, le roi Kanishka a ordonné à Shafar le margrave, donc, gouverneur de la frontière, de faire en ce lieu le temple, Bagolango, qui est appelé Vareab, l'eau des dieux, dans les plaines de Kassig, pour les dieux qui sont venus ici en la présence de l'irradiante Umma. Alors, on va revenir là-dessus parce que ça, c'est un scoop. On ne la connaissait pas avant. La susmentionnée Nana, oui, dont il a dit un peu avant que c'était C'était d'elle qu'il tenait la royauté. Mais la déesse principale de ce temple, c'est Umma. La susmentionnée Umma. Donc, Hormazd, Ahura Mazda, Mujdwan, mystérieux, on va revenir là-dessus. Ensuite, Srosh-Ard, c'est-à-dire Srosh, le dieu zoroastrien de la prière. Et alors, il y a une glose qui dit « Qui en Inde est appelé Mahasena et est appelé Vishaka ?» Narsé Mitra. Donc, c'est une liste où la majorité des dieux, mais pas tous, appartient au panthéon zoroastrien. Hormazd, Srosh, Narsé, Mitra. Et il a ordonné de faire des images à ces dieux inscrits ci-dessus. Et les statues des dieux. Et il a ordonné d'en faire pour ses rois. Le roi Kujulef Katfisès, son arrière-grand-père. Le roi Vimataktou, son grand-père. Le roi Vima Katfisès, son père. Et lui-même, le roi Kanishka. Ce texte a été capital pour régler la question de la chronologie kouchane, parce qu'on s'est aperçu que les dates hautes proposées, notamment par Foussman, pour Kanishka, 66 de notre ère, ne tenait plus à partir du moment où il avait eu trois prédécesseurs sur le trône. Donc ça nous met aujourd'hui un quasi-consensus pour le mettre en 127. Puissent les dieux inscrits ici conserver le roi des rois Kanishka le couchant pour toujours en bonne santé, fortuné et victorieux. Et le roi fils des dieux a pacifié toute l'Inde de l'an 1 à l'an 6. Le temple fut alors toute l'Inde, mais on considérait, semble-t-il, que ce qu'il y avait au sud de l'Inde, ce n'était pas vraiment l'Inde. Voilà. Il y avait cette idée que l'Inde, c'était la vallée de l'Indus et la plaine gangétique, et que plus au sud, c'était des appendices. Bon. Le temple fut fondé en l'an 1. Puis en l'an 3, suivant l'ordre du roi, alors c'est un mot fromano qui peut se comprendre soit comme un ordre oral, soit comme un document écrit. Et on reviendra là-dessus parce qu'il est possible que ces documents écrits soient figurés à Surkhotal. Beaucoup de services religieux furent dotés, beaucoup de serviteurs du culte furent dotés. Et le roi donna cette forteresse aux dieux. Voilà donc l'inscription de Rabatak. Alors, cette inscription, quand elle a été publiée par Sims Williams, a complètement transformé la connaissance de l'Empire couchant. Alors, au début, il y a eu des controverses. Foussman, dans son cours au Collège de France, a contesté la fiabilité du déchiffrement qu'avait publié Sims Williams, parce que le premier déchiffrement, Sims Williams a d'abord déchiffré sur des photos qui n'étaient pas très bonnes. Foussman n'était pas d'accord, et en plus ça l'arrangeait pas trop parce que ça bouleversait, ça mettait en cause la chronologie haute qu'il avait voulu défendre. Il s'est appuyé sur une autre édition faite par un Indien, Mukherjee, mais en fait l'édition de Mukherjee n'a strictement aucune valeur épigraphique. Alors, ce qui s'est passé ensuite, c'est que Sims Williams a pu aller à Kaboul. La pierre a été amenée à Kaboul. Il a pu aller à Kaboul. Et là, il a lu, non pas sur photo, mais sur la pierre. Alors, il dit lui-même que, armé d'un cure-dent, il a enlevé les petits morceaux de terre qui encrassaient les lettres, etc. Bon. Et il a publié un nouveau déchiffrement qui confirmait 80% du déchiffrement qu'il avait fait sur photo et qui permettait en plus aussi de l'améliorer et de le compléter. Donc, à la suite de ça, Foussman n'a plus contesté en réalité la lecture. Alors, plusieurs choses donc qui demandent à être commentées. On pourrait passer un an sur ce texte. Hein. Bon. Foussman y avait passé pas mal de temps. Donc, j'ai déjà parlé du problème que soulève la formule « le Seigneur qui rend culte au Dieu, mais qui pourrait être le Dieu digne du culte ». Bon, enfin, moi je pense que c'est le Seigneur qui rend culte au Dieu. Parce que ça correspondrait bien à une formule iranienne qu'on a dès les inscriptions de Darius, Mazda Yasna. Le dieu, le roi et Mazda Yasna, il rend culte à Ahura Mazda. On n'a aucune inscription qui nous dit que le roi reçoit un culte digne des dieux. Alors, il a abandonné la langue grecque et institué l'arienne. Oui. Littéralement, il y a un verbe qui veut dire émettre ou laisser tomber. Donc, moi, je pense que c'est plutôt laisser tomber dans la langue grecque. Et instituer, on est d'accord là-dessus, l'arienne, la langue arienne. Alors, la langue arienne, bah, c'est le bactrien, évidemment. Alors, on avait beaucoup débattu au moment de la découverte de l'inscription sur Cotal sur le nom qu'on devait donner à cette langue qu'on découvrait. Maric, le premier qui l'avait publié, avait proposé un nom scientifiquement assez fondé, mais trop compliqué pour s'imposer, c'était Éthéo-Tocarien. Puis Henning, et bon, on ne va pas tourner autour du pot, c'est la langue qu'on parlait en bactriane, on va appeler ça le bactrien. En fait, si on appelait cette langue du nom que ses locuteurs lui donnaient, on dirait l'arien. Mais vous comprendrez qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on ne peut pas dire ça. Donc, on va garder bactrien. Bon. Alors, ça correspond à quelque chose, c'est quelque chose de très confirmé, parce que sous Kanishka, justement, jusqu'à Kanishka, on a encore des témoignages d'usage officiel de la langue grecque. Les monnaies portent des légendes en grec, ou quand elles sont bilingues, en grec et en indien. Jamais en bactrien. Il se trouve que la première série des monnaies d'or de Kanishka donne sa titulature et au revers le nom des dieux qu'il représente en grec. Et on sait qu'au bout d'un an, parce qu'on voit très bien, les frappes étaient annuelles, au bout d'un an ça change, tout devient en bactrien. Donc ça me paraît pour ma part évident que ce dont il parle ici, c'est la réforme linguistique. Il a abandonné le grec et a adopté la langue du premier pays, en fait, qui avait conquis les couchants. Cette manifestation nationaliste trouve une confirmation par ailleurs dans une inscription sur plat dont je vais être amené à parler après. C'est le moment où on a cessé de désigner le pays comme Bactriane et où il a été désigné comme Tocarestan, nom qu'il va garder pendant tout le Moyen-Âge. Or, les Tocars, c'est, semble-t-il, l'auto-désignation du peuple des Yuechi, peuple nomade, d'où est sortie la dynastie Kouchane. Donc, on voit très bien que... Il y a, on peut dire, une volonté de répudier dans l'usage officiel l'héritage grec. Bien que, évidemment, il n'ait pas été répudié, il ait laissé un héritage considérable dans l'architecture et dans l'art. Mais enfin, on voit, c'est quand même c'est un ensemble d'indices très forts. Bon. Alors, dans la liste, deux déesses ont la primeur. Nana, qui lui a fait obtenir la royauté. Et puis après viennent tous les autres dieux. Mais après, quand il énumère les dieux qui sont adorés dans ce temple, Nana vient en second. La maîtresse du lieu, c'est l'irradiante Umma. Bien. Alors, on ne la connaissait pas avant. Bon. Peut-être lit-on son nom sur des monnaies kouchanes, mais ce n'est pas tout à fait sûr. Umma, ça a été interprété de différentes manières, mais l'interprétation la plus qui tient le plus, c'est celle qu'a proposée Sims Williams. C'est la lune pleinement brillante. C'est-à-dire, c'est la pleine lune. c'est pas la lune montante, c'est pas la lune descendante, c'est la pleine lune. Et étymologiquement, ous, donc qui indique voilà la grandeur, le maximum, et shma, racine sham, briller. Et c'est une forme féminine. C'est intéressant que ce soit une forme féminine, parce que normalement, en domaine iranien, la divinité de la lune est masculine, ma. Je vais revenir là-dessus ensuite, parce que il y a maintenant il y a un autre document qui du coup donne un nouvel éclairage sur cette déesse Umma. C'est la plus ancienne inscription kushane, antérieure à l'inscription de Rabatak, c'est l'inscription du Dashtinaour. Alors, le Dashtinaour, c'est une inscription qui a été trouvée en 1967. Oui, voilà. Elle a été trouvée découverte en 1967 par un géologue en Afghanistan, au sud-ouest de Ghazni, à 4320 mètres d'altitude. Il n'y avait qu'un géologue qui pouvait la trouver. C'est tellement difficile d'accès qu'il a fallu des années pour que des archéologues montent. Paul Bernard y est allé, mais il est arrivé au moment du crépuscule, il n'a pas pu faire grand-chose. Et puis finalement, Foussman y est allé, il est resté longtemps, et il a fait la première publication. Le problème, c'est que entre le moment où Paul Bernard était passé et le moment où Foussman est passé, les bergers du coin ont cru que si des Occidentaux s'intéressaient à cette inscription, c'est que soit elle avait c'était une inscription du mauvais œil, et soit peut-être qu'elle cachait un trésor. Et ils ont commencé à taper dessus. Bon. Donc, l'état de l'inscription, quand Foussman l'a étudié, c'était déjà dégradé. Alors, on a tout de suite vu que c'était quelque chose de complètement exceptionnel, parce qu'elle est trilingue. Elle est trilingue. Numéro 1, voilà, ça c'est du bactrien. C'est en bactrien. C'est la plus ancienne inscription bactrienne connue. C'est le grand-père de Kanishka, Vimataktu. DN2, c'est également bactrien. Il y a deux versions, en fait, bactriennes. Il y a DN3, alors là, ils appellent ça ici. C'est ce qu'on appelle l'écriture inconnue. C'est une écriture non déchiffrée d'une langue qu'on n'identifie pas. Et 4, c'est Gandhari, c'est donc de l'indien. Je vous dis tout de suite, la version indienne est très très mal conservée, ça permet pas vraiment d'interpréter le reste. L'écriture inconnue, on arrive maintenant à déchiffrer quelques mots, mais c'est vraiment le mot roi des rois ou le nom du roi, c'est pas autre chose. Et alors, l'hypothèse logique, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est vrai, c'est que ce serait la langue d'origine des Kushans. C'est la langue qu'ils parlaient avant de conquérir la Bactriane et d'adopter la langue de la Bactriane. D'où venaient les Kushans? Ils venaient des confins de la Chine. Et c'était donc, on suppose que c'était peut-être une forme de langue scythe de l'Est qu'ils auraient continué à utiliser avant finalement d'adopter le bactrien pour tout usage officiel. Alors, cette inscription a été d'abord publiée par Foussman puis à la lumière de l'inscription de Rabatak, Sims Williams s'est aperçu qu'il y avait des séquences de mots qui correspondaient. Et donc, il a proposé une nouvelle lecture. Et il se trouve que maintenant, il y a encore une nouvelle tentative, celle-ci, par une équipe allemande. C'est tout récent, c'est en ligne, c'est même pas publié encore en papier. Il y a une nouvelle tentative parce qu'il se trouve qu'on a trouvé une inscription assez semblable à la frontière au Tadjikistan, dans les montagnes au nord de Douchanbé. Alors, une idée qui vient, c'est que ça pourrait du coup être des inscriptions frontalières. Parce que d'Ashtinaour, près de Ghazni, c'est peut-être les zones où l'Empire couchant s'arrêtait et où on commençait à s'approcher des zones contrôlées par les Indo-Partes. Et puis, l'autre inscription donc, trouvée récemment au Tadjikistan, à Almaty, c'est pareil, c'est sur une crête montagneuse. Et au-delà, peut-être les couchants s'arrêtaient et il y avait la confédération nomade, dite des Kankyu, dont j'ai été amené à parler. Peut-être. En tout cas, les deux inscriptions semblent se répondre, donc ça a permis de faire des progrès dans la lecture. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant ? Année 279. Alors, c'est pas l'ère instituée par Kanishka en 127, c'est avant lui. Et avant lui, on comptait d'après une ère qu'on appelait l'ère grecque. En indien, l'ère Yavana. Et on sait maintenant que ça démarrait en 175 avant Jésus-Christ. Année 279, mois Gorpiaios, jour 15. Alors, ça nous met en 104 après Jésus-Christ. Donc, 20 ans avant l'avènement de Kanishka et la construction des grands temples dont on parle. Du roi des rois, le grand salut Vimataktou. Vimataktou, on l'a vu dans l'inscription de Rabatak, c'est le grand-père de Kanishka. Le couchant, le droit, le juste. Alors, même problème. Le seigneur qui rend culte au dieu, Sims Williams comprend le dieu digne de culte, qui, par sa propre autorité, ça va être sa propre volonté, a acquis la royauté. Il a sacrifié à la pleine lune. Et il fait le service des dieux. Et les gens, jusqu'au lever du soleil, ça c'est assez douteux, ont bu du vin. Ça c'est pas douteux. Les gens, Karan, c'est un mot iranien qui veut dire, ça peut vouloir dire le peuple, ça peut vouloir dire l'armée. Voilà. Là, on peut pas savoir si c'est l'armée ou la population. En tout cas, cette inscription, je le rappelle, est à 4320 mètres d'altitude. Bon, alors, de quoi s'agit-il ? Une cérémonie en plein air, apparemment, puisqu'il n'y a pas de vestiges de temple à côté. Plus bas, il y a quelques... autour d'un lac, il y a des enceintes, mais qui semblent être vides. Bien. Pas de site archéologique, donc, dans là. Intéressant, ça se passe au mois Gorpiaios. Alors, c'est un nom de mois... du calendrier, alors je vous passe sur les détails, c'est le calendrier babylono-macédonien, c'est-à-dire que c'est un calendrier qui avait été légué par les Grecs. Ils avaient en fait, c'était le calendrier de Babylone, mais on l'a affublé avec des noms de mois macédoniens. Et Gorpiaios, ça tombe en août. Alors tout de suite, ça fait tilt, parce qu'à 4320 mètres d'altitude, une cérémonie religieuse, ça ne peut pas être en plein hiver. Donc, c'est assez logique que ça ait eu lieu en août. Donc, culte. Alors, la pleine lune, pour les guides, ça c'est Sims Williams qui a trouvé ça, parce que les éditeurs avaient compris complètement ou quelque chose comme ça. Mais en fait, ça, c'est la racine, donc remplir. Et Sims Williams a tout de suite compris, c'est la pleine lune. Et il y a une raison qui corrobore tout à fait cette idée, c'est que ça se passe le 15 du mois. Et on est dans un calendrier lunisolaire. Le 15 du mois, c'est la pleine lune. Donc, ça colle bien. Alors, ça nous ramène à notre déesse Umma, la déesse de la pleine lune. Alors, je crois que j'ai refait... Ah non, voilà, non, j'ai pas refait la bêtise. La déesse de la pleine lune, elle n'est pas nommée dans cette inscription-là, mais il semble s'agir de la même chose. Bien. Alors, du coup, ça permet de revisiter une divinité connue plus tard, qui est une divinité lunaire et qui est féminine à nouveau. Donc, comme Umma, c'est en Sogdiane. Rchoum, en fait, ce serait le même nom, même étymologie. Elle a posé problème quand on l'a trouvé parce qu'on s'attendait à une divinité lunaire masculine, comme on a d'habitude en Iran. Par exemple, ici, voilà, vous voyez, sur les monnaies Kushan, vous avez Ma, la divinité lunaire, c'est une divinité masculine. Sur ce plat sassanide, enfin du 7e siècle, on voit bien que c'est la divinité lunaire parce qu'elle est dans un char tiré par des bœufs, ce qui caractérise la divinité lunaire, par contraste avec Mitra, le dieu du soleil, qui est dans un char tiré par des chevaux, et c'est une divinité masculine. Donc, la lune était vénérée, au moins sous les premiers couchants, sous deux aspects, semble-t-il, masculin et féminin pour la pleine lune. L'association des couchants et de la lune se retrouve par la suite, mais alors c'est plutôt avec la lune masculine. On a un sceau de Kanishka en bactrien où il a comme épithète Ma, non, masculin de la lune. Et en indien, on l'appelle Chandra Kanishka. Chandra, divinité indienne de la lune, mais masculine. Donc il y a les deux. Bien. Donc, on atteint là une strate de la religiosité kushane, sans doute pas associée à un temple, puisqu'encore une fois, il s'agit probablement, si on boit du vin, s'il y a l'armée, ça doit être une cérémonie de victoire célébrée en plein air. Bon. Alors, ça permet aussi peut-être de s'interroger à nouveau sur de très curieuses images de rois couchants. Vous voyez Vima Katfises, c'est le fils de Vima Taktou et le père de Kanishka. Sur ses monnaies, il sort d'un empilement de rochers. Alors, on a dit, c'est une allusion au culte de Mitra, parce que, dans cet article récent de Harry Falk, c'est une allusion au culte de Mitra, parce que Mitra, le Mitra gréco des cultes romains, mais également en Iran, sort d'un rocher, sort des montagnes. Alors, est-ce que ça assimilerait le souverain à Mitra? Oui, mais on voit que quand il célèbre la pleine lune, ça se passe au sommet d'une montagne. Donc, c'est peut-être plutôt ça. Bien. La suite de la liste, le reste de la liste des dieux qu'on a à Rabatac, elle a beaucoup décontenancé quand on l'a découverte, parce que c'est pas la liste des dieux qu'on voit apparaître au premier plan sur le monnayage de Kanishka. Il y en a sept aussi, mais c'est pas tout à fait les mêmes. On a sur les monnaies de Kanishka, on a Nana, on a Mitra, mais pas les autres. Bien. Alors, c'est un choix curieux qui semble éclectique. Il y a une chose qui est sûre, c'est ils n'ont pas pris de divinité indienne. C'est après, il se trouve que pour ce dieu-là, quelqu'un en interlinéaire a écrit « En Inde, il est appelé Mahasena, il est appelé Vishaka ». Donc on l'a assimilé à des dieux shivaïtes. Mais ça s'est fait plus tard, peut-être seulement sous le roi Uvishka. Au départ, il n'y a pas de composante indienne là-dedans. Alors, quelle est la cohérence de tout ça? Après les deux grandes déesses, donc Uma et Nana, on a l'impression d'un choix de divinité, disons, protectrice de la royauté et peut-être plutôt en liaison avec l'activité cultuelle. Srosh, c'est le dieu de la prière, c'est le dieu du culte, c'est le dieu de la prière. Narsé, Neryosang, plus anciennement, c'est le messager des dieux, voilà. Mitra, dieu solaire, mais également dieu de la justice. Donc, ça pourrait être la justification de ce choix, mais qui, encore une fois, c'est pas traduit sur les monnaies. Ce qui est curieux quand même, c'est qu'ils sont 7. Bon, voilà, chiffre qu'on va retrouver après sur les monnaies, et c'est un chiffre qu'on trouve souvent dans la religion zoroastrienne. Bon, on peut difficilement aller au-delà dans les hypothèses. Alors, il y en a un là-dedans, Moujdouan, il a aussi donné du fil à retordre. Mais, une fois de plus, c'est l'infatigable Sims Williams qui a trouvé la solution. Il apparaît, lui, sur des monnaies Kushan en or. Ça, c'est une monnaie de Kanishka. Moujdouan. Ça veut dire en bactrien le bienveillant, le généreux. Bon. Alors, il est sur un cheval à deux têtes. On comprend pas. Il a l'apparence, on a voulu le représenter comme un roi couchant. Alors, on se dit, c'est peut-être la strate ancestrale, encore une fois, comme Umma, la déesse de la pleine lune, comme la langue et l'écriture inconnues. C'est peut-être bien des éléments que les couchants avaient hérités et ont amenés avec eux. Puis après, bon, ça s'est dilué. Plus tard, en fait, celui qui va apparaître comme la divinité principale sur les monnaies, comme semble-t-il aussi à Surkhotal, c'est Wesh. Alors, sur Wesh, il y a toutes sortes de choses à dire. Ici, clairement, c'est Shiva. Il est représenté comme Shiva, à trois têtes, tenant les attributs de Shiva, le trident, la massue, le vase brahmanique et la foudre. Son nom, il s'appelle pas Shiva, il s'appelle Wesh. C'est un nom iranien, c'est Vayush, le nom de l'espace atmosphérique. Plus sur les monnaies plus anciennes, il est déjà là avec son trident, mais pas la même apparence. Il a des caractères d'Héraclès, en fait, avec la, semble-t-il, la peau du lion ici. Ouais. Je m'arrête pas sur les détails, mais Ari Falk, qui est un indianiste, dans cet article très très bon, un peu spéculatif, mais enfin, qui analyse très bien le dossier indien de tout ça. Voilà, c'est Kushan Religion and Politics. Dit que il faut pas dire Shiva, en fait, pour cette époque, parce que le nom de Shiva ne s'est pas encore imposé en Inde. Il s'impose vraiment à partir du 4e siècle. À cette époque, cette divinité visiblement composite, qui est une divinité des hauteurs, de l'orage, une divinité terrifiante, hein, qui peut être à la fois terrifiante et bienveillante, s'appellerait plutôt Rudra. Voilà. Et Shiva est en fait au départ une épithète atténuative de Rudra. Ça veut dire le bienveillant, le gentil. C'est parce que Rudra fait peur. Oui, tout à fait, il a la massue. Alors, voilà ce qu'on peut dire sur Rabatak. Donc, c'est à la fois un enrichissement énorme du dossier, mais ça pose de très grands problèmes absolument à tous les niveaux. Et bien entendu, la frustration insurmontable, c'est l'absence de fouilles. Bon, il est certain que s'il était possible dans l'avenir de fouiller ce site, mais il ne faut pas être trop optimiste, parce que même si des conditions favorables à l'archéologie se présentaient à nouveau, le pillage doit continuer à une échelle industrielle. À partir du moment où il y a des blocs de pierre taillés, on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Bon. Si le site pouvait être fouillé, eh bien, ça donnerait un éclairage complètement complémentaire par rapport au temple de Surkhotal sur lequel je vais venir maintenant, et qui a été longtemps le monument emblématique de la religion kushane, on voit que cet autre temple fondé au même moment ne semble pas présenter tout à fait la même religion. Bien. Oui, alors rapidement, je dis un mot sur d'autres. L'autre temple dynastique connu, Math, près de Mathura, en Inde. Alors, la fouille a été un massacre. Ça a été fouillé en 1911-1912 par un archéologue indien amateur. Aujourd'hui, il ne reste plus rien. Donc, tout ce qu'on voit, c'est que c'était tourné vers l'est, qu'il y avait effectivement un escalier d'accès, comme à Surkotal et Rabatak. Une sente. On n'est même pas bien sûr de l'architecture du noyau central. Ce qui est sûr, la seule chose qui est sûre, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a trois statues d'ancêtres de rois couchants qui sont identifiées par des inscriptions. Là, on a ici Vimataktou, donc à qui on doit l'inscription de Rabatak et qui est nommé dans l'inscription de Surkotal. On a Kanishka, avec sa grosse massue, là, ses bottes de la steppe, c'est une magnifique statue. Et on a une troisième statue, on n'a que les pieds, c'est Uvishka, le fils de Kanishka. Donc là aussi, on voit très bien, il y avait une galerie, on peut quand même parler de temple dynastique, parce qu'il y a une galerie d'ancêtres présentés comme donateurs qui sont à côté d'un culte qui est adressé à une divinité. Mais alors il se trouve qu'à Math, on n'a absolument aucun élément pour savoir quelles pouvaient être là ou les divinités qu'on adorait. Et alors il y a un autre cas qui pose des problèmes différents. C'est à Ayrtam, alors c'est côté ouzbek, c'est sur la rive nord. Il se trouve que cette inscription en bactrien, mais extrêmement peu lisible, désigne le lieu comme un Bagolango, à nouveau, comme à Rabatak, comme à Surkotal. Mais ce qu'on a, c'est pas grand-chose. On a une grande frise qui représente des musiciens. Elle est à l'Ermitage, elle est en copie au musée de Tashkent. On a interprété ça de manière bouddhique parce que ce sont les sept sons de la musique indienne, mais c'est pas forcément bouddhique. Et puis on a cette statue donc qui devait être importante puisque l'inscription se trouve en dessous d'elle, avec un couple divin. Alors probablement c'est un couple qui peut se lire à la fois à l'indienne et à l'iranienne. À l'indienne, ce serait Ardwarsh, la déesse de la prospérité, et Farn, le dieu, là aussi, le dieu de la fortune. Bien. Et il se trouve qu'en lecture indienne, ça, on peut très bien les interpréter comme le couple Arithi, la déesse protectrice des enfants, une ancienne ogresse mangeuse d'enfants qui a fini par les protéger, et Panchika, qui est le Kubera Panchika, le dieu de la fortune. On ne sait pas si c'était les seules divinités adorées. Dans ce cas précis, malgré le mot Bagolango, on n'a pas du tout la certitude qu'il s'agisse d'une fondation royale. Ceux qui ont publié les premiers l'inscription ont cru lire le nom du roi couchant Uvishka. C'est pas sûr du tout. Je crois que Sims Williams est en train de reprendre le dossier. Donc voilà. Et alors la prochaine fois, donc évidemment, on va aborder le gros morceau, qui est sur Kotal. Voilà. Alors je vous dis donc à la semaine prochaine.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.